VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
17h30 en temps universel, Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce mercredi 13 septembre, en Libye, plus de 35 000 personnes déplacées suite aux inondations qui ont fait plus de 3 800 morts. Les secouristes marocains intensifient leurs efforts pour retrouver d'éventuels survivants 5 jours après le séisme meurtrier. Au Mali, des groupes armés ont attaqué Bourem, mais l'armée a repoussé l'attaque et contrôle toujours la ville. En Russie, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, après 2 heures d'entretien, promettent de renforcer leur coopération. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. En Libye, au moins 35 000 personnes ont été déplacées après les inondations. Plus de 3 840 personnes ont été tuées à Derna, a déclaré le lieutenant Tarek Al-Akazaz, porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement basé dans l'est du pays. Il précise qu'au moins 400 étrangers, pour la plupart originaires du Soudan et d'Égypte, sont parmi les victimes. Le point avec Nanit Talani.
L'Organisation internationale des migrations fait état de plus de 30 000 déplacés à Derna, ville de 100 000 habitants, la plus dévastée par la tempête Daniel, ainsi que 3 000 à Al-Baïda et plus de 2 000 à Benghazi, d'autres villes situées plus à l'ouest. Selon Oussama Ali, porte-parole du service de secours et d'urgence, les inondations ont fait plus de 2 300 morts et environ 7 000 blessés à Derna et plus de 5 000 personnes sont toujours portées disparues. Les routes coupées, les éboulements de terrain et les inondations ont empêché les secours d'atteindre la population. Les habitants ont dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps enterrés par dizaines dans des fosses communes. L'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, l'Italie, la Tunisie, la Turquie et les Émirats arabes unis ont envoyé de l'aide humanitaire. L'Union européenne annonce l'envoi d'aide vers Derna et le déblocage d'une première enveloppe de 500 000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens.
Au Maroc, les secouristes intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le séisme qui a fait plus de 2 900 morts et plus de 5 000 blessés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le séisme a rasé de nombreux villages dans des zones montagneuses, parfois très difficiles d'accès. Des convois d'aide privés se sont rendus vers des villages reculés, plus à l'ouest, et les camps de tentes commencent à apparaître. L'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans des zones enclavées. Des équipes du ministère de l'Équipement poursuivent leurs travaux pour ouvrir des pistes menant à des petits hameaux. Le tremblement de terre a frappé vendredi soir une région du Haut Atlas, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros après avoir débloqué 1 million de Suisses de son fonds d'urgence pour appuyer le Croissant Rouge marocain. Les autorités marocaines ont accepté l'aide de l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le pape François, qui s'était rendu au Maroc en 2019, a déclaré que ses pensées vont au noble peuple marocain.
Au Mali, les affrontements qui ont eu lieu mardi entre l'armée et les rebelles Touareg à Bourem ont fait des dizaines de morts. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'état-major des forces armées maliennes a déclaré que 10 soldats ont été tués mardi alors qu'ils repoussaient une attaque près de Bourem, ajoutant que 46 combattants ennemis ont été tués. Pour sa part, la coordination des mouvements de l'Azawad avance un bilan de 9 morts dans ses rangs et de 97 soldats maliens tués, ajoutant avoir attaqué 4 positions de l'armée autour de Bourem. L'état-major malien n'a mentionné ni le camp militaire ni la SEMA, mais a dit dans un communiqué que la situation près de Bourem est sous contrôle. Le retrait des casques bleus doit s'achever d'ici au 31 décembre. Leur départ progressif a contribué à l'escalade. La MINUSMA remet ses camps aux autorités maliennes. Les rebelles estiment que ces camps devraient revenir sous leur contrôle. Le sujet deviendra plus brûlant d'ici à fin 2023, avec le camp de Kidal, ville bastion des Touareg.
Au Niger, la junte au pouvoir a annoncé hier soir qu'elle mettrait fin à un accord militaire avec le Bénin, accusant son voisin d'avoir autorisé le déploiement de soldats sur son territoire en vue d'une possible intervention de la CEDEAO. La CEDEAO a menacé d'intervenir militairement en cas d'échec des négociations pour rétablir l'ordre constitutionnel. La junte nigérienne a estimé que le Bénin a autorisé le déploiement de soldats, de mercenaires et d'équipements militaires dans la perspective d'une agression. Le Bénin n'a pas réagi dans l'immédiat. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est en visite en France. Son homologue français Emmanuel Macron l'a reçu pour un entretien qui intervient dans un contexte de reprise du dialogue et de dynamique positive des relations bilatérales. Monsieur Touadéra s'est prononcé en faveur d'une consolidation des relations avec Paris, tout en expliquant que son partenariat avec la Russie est appelé à se poursuivre. En République démocratique du Congo, l'ex-chef du parti présidentiel, Jean-Marc Kabound, poursuivi pour outrage au chef de l'État, a été condamné à 7 ans de prison selon sa défense. La Cour de cassation a jugé que toutes les infractions pour lesquelles M. Kabound était poursuivi sont établies, a déclaré Maître Kadi Gitou. La Cour a fait un cumul de peines et l'a condamné à 84 mois de servitude pénale, l'équivalent de 7 ans de prison, a ajouté l'avocate.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Soudan, au moins 40 personnes ont été tuées ce mercredi à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, dans des raids aériens, selon une source. L'ONU renforce les appels aux belligérants afin d'épargner les civils. Des tueries de civils sont en cours à Niala, Khartoum, El Fasher, dans le Darfour Nord, alerte Clémentine Nkwata Salami, coordinatrice humanitaire de la mission de l'ONU au Soudan. Par ailleurs, l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, devenu la bête noire de l'armée soudanaise qui réclamait son limogeage, a annoncé mercredi avoir remis sa démission à Antonio Guterres. M. Perthes a livré un rapport au Conseil de sécurité renvoyant dos à dos l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide. À Madagascar, l'opposition a dénoncé ce qu'elle qualifie de coup d'État institutionnel orchestré par le président sortant, André Rajoel, qui a chargé le Premier ministre d'assurer l'intérim pendant la période électorale. Dans une lettre reçue par la commission électorale, 10 candidats affirment que le pouvoir met le Premier ministre aux commandes afin de manipuler les résultats du scrutin. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 9 novembre et le second tour le 20 décembre. 13 candidats sont en liste, dont le président sortant, André Rajoel, et l'ancien président, Marc Ravalomanane.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un poursuit sa visite en Russie. Le président Vladimir Poutine dit voir des perspectives de coopération militaire avec la Corée du Nord, malgré les sanctions visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles. Mohamedou Oumfa.
Le président russe Vladimir Poutine a dit trinquer au renforcement futur de la coopération avec Pyongyang à l'occasion d'un déjeuner organisé en l'honneur du dirigeant nord-coréen en visite dans l'extrême-orient russe. Le choix d'un cosmodrome pour tenir cette réunion est symbolique. Vladimir Poutine a évoqué la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites. Pyongyang a échoué à deux reprises à mettre en orbite un satellite militaire espion. La rencontre est susceptible, selon les États-Unis, de déboucher sur un accord de vente d'armes. Parmi les munitions de l'arsenal nord-coréen susceptibles d'intéresser la Russie figurent les roquettes de calibre 122 mm destinées à des lance-roquettes multiples de l'époque soviétique qui équipent les forces russes en Ukraine. l'Ukraine. Mais rien à ce stade n'a été communiqué concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire à la Russie. La Maison-Blanche a déjà averti la Corée du Nord qu'elle paierait le prix si elle fournissait à la Russie des armes pour le conflit en Ukraine.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Nanik Salami.
La RDC abrite le forum sur l'exploitation artisanale de l'or jusqu'au 16 septembre à Kinshasa pour chercher à stabiliser l'exploitation illicite de l'or et permettre un développement du secteur qui reste encore très dangereux pour les exploitants. Cette rencontre permet aussi de réfléchir sur un système régional de suivi des minerais, une solution durable pour un commerce responsable de l'or et l'exploitation minière artisanale dans la région des Grands Lacs. Le PIB du Sénégal en 2023 va chuter à 4% contre une prévision de 5,3%, estime le FMI, car la situation sociopolitique tendue au premier semestre a pesé sur le commerce et les services. Les autorités sont encouragées à rationaliser les exonérations fiscales et à accélérer la mise en œuvre de la stratégie des recettes à moyen terme. Dakar doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer progressivement des subventions à l'énergie, comme le prévoit la feuille de route adoptée en janvier dernier. Pour terminer, la Banque africaine de développement et l'Érythrée ont renforcé leur partenariat pour soutenir la croissance du pays et lui permettre de tirer le meilleur parti de ses importants gisements de potasse au cours des prochaines années. Il concerne le soutien aux communautés de pêche, à l'agriculture, au développement des compétences et des capacités pour accroître l'autosuffisance.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Yacouba, on connaît les deux derniers qualifiés pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
Oui, il s'agit du Cameroun et de la Namibie. Les Lions indomptables ont battu le Burundi 3-0 à Garoua dans le match de la dernière journée du groupe C. Brian Mbeumo, Christopher Wo et Vincent Aboubakar sont les buteurs. Grâce à cette victoire, le Cameroun finit premier de sa poule avec 7 points devant la Namibie, deuxième avec 3 points et aussi qualifié. La liste des 24 pays qualifiés affiche désormais complet. Le tirage au sort pour la constitution des groupes est prévu pour le 12 octobre à Abidjan. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire.
Des matchs amicaux se sont aussi disputés hier.
Le Sénégal s'est incliné 0-1 devant l'Algérie. La Tunisie a battu l'Égypte 3-1. Même score en faveur du Ghana qui affrontait le Libéria. L'Angola a perdu 4-0 face à l'Iran, 1-0 pour l'Afrique du Sud face à la RDC. Même score en faveur du Soudan du Sud face au Kenya. Le Maroc a disposé du Burkina Faso 1-0 à Lens en France, un match qui s'est joué dans un contexte difficile, 4 jours après le séisme qui a frappé le royaume chérifien. Walid Regragui, sélectionnaire du Maroc.
Bah déjà, ce n'était pas un match facile à préparer, mais il fallait jouer pour montrer que le Maroc savait se relever. Je pouvais regarder de l'avant que le Maroc ne s'arrêtait pas. Continuer même quand c'est 5 ans en difficulté. Ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui par ce match, on a été bien accompagné par le public qui lui aussi a répondu présent. Les joueurs voulaient vraiment gagner le match. On a mis beaucoup d'intensité, on a laissé aussi beaucoup d'espace. On a eu beaucoup d'opportunités pour tuer le match. Je pense que c'est la seule chose que je peux reprocher à mes joueurs, c'est pas avoir une deuxième pour être plus libéré.
Walid Regragui, sélectionneur du Maroc au micro d'Amine Birouko.
Et le match Côte d'Ivoire-Mali a été interrompu par une forte pluie, mais le gouvernement se veut tout de même rassurant.
Le gouvernement ivoirien assure que les installations prévues pour la prochaine CAN ne seront pas mises en cause. Hier, le match amical Côte d'Ivoire-Mali a été interrompu à cause d'une pelouse détrempée. Après de fortes pluies orageuses qui se sont abattues sur Abidjan, la pelouse du stade Alassane Ouattara et Bimpé était donc devenue totalement impraticable, obligeant les arbitres à arrêter le match à la pause 0-0. Les installations de ce stade, homologuées par la Confédération africaine de football, ne sont pas à ce stade mises en cause, a affirmé le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, assurant qu'il n'est pas nécessaire de prendre des sanctions. Initialement programmée en juin-juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024 afin d'éviter que les matchs aient lieu en pleine saison des pluies.
Merci Yacouba.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Zili Diko, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Au Mali, la ville de Tombouctou subit depuis août un blocus instauré par un groupe djihadiste. Les vols de la compagnie aérienne Sky Mali vers cette ville ont été annulés en raison d'une attaque près de l'aéroport de la ville. Eric Manirakiza a joint Alousseni Aladji, notre correspondant sur place.
Les récentes attaques ont véritablement marqué les esprits. C'est la première fois que la ville de Tombouctou reçoit en l'espace d'un mois au moins trois tirs d'obus avec une fillette décédée et quelques blessés. Également, l'attaque du bateau également a marqué les esprits avec une centaine de morts et 400 et quelques rescapés. Et aujourd'hui, c'est une véritable psychose que ces attaques ont créée chez les populations. Alors, les autorités ont décidé depuis ce lundi 11 septembre de décréter un couvre-feu qui va de 20h à 6h du matin. Donc, ce couvre-feu doit durer un mois et si les choses ne changent pas, il sera en tout cas reconduit jusqu'à ce qu'on retrouve une certaine stabilité dans la région de Tombouctou.
Alors, les attaques récentes, notamment celles contre le bateau sur le fleuve Niger, ont-elles suscité des réactions ou des mesures de sécurité particulières de la part des autorités locales ou de la population ?
Ce blocus est un véritable supplice pour la population de la région de Tombouctou. Rien qu'à prendre l'axe Goundam-Tombouctou, distant d'environ 90 km, sur cet axe, les passagers ne peuvent pas voyager avec des marchandises et autres bagages. Donc les chauffeurs ne prennent que les passagers et également les camions et autres véhicules qui essaient de transporter d'autres marchandises, soit on leur demande de retourner avec ces marchandises ou tout simplement de les laisser là où les groupes armés les ont appréhendés. Et également, on sait que l'essentiel des denrées de première nécessité viennent des pays voisins comme l'Algérie, la Mauritanie. Et depuis un moment, un chef djihadiste a demandé à ce que ces éléments bloquent ces accès-là. Et on se rappelle également qu'un camion qui a essayé, en tout cas, d'enfreindre ces instructions, le camion a tout simplement été brûlé avec tout son contenu.
Ali Ousseini, comment évaluez-vous la situation humanitaire dans la région compte tenu de l'isolement croissant de Tombouctou et d'Ougao? Y a-t-il des organisations humanitaires ou des efforts en cours pour aider les personnes affectées par cette crise?
Il faut dire que cette situation devient de plus en plus intenable, des accès bloqués. Aujourd'hui, certaines personnes ont peur de voyager par voie fluviale avec ce qui s'est passé. Sky, la compagnie aérienne également, a décidé depuis hier de suspendre ses vols sans pour autant donner une nouvelle date de la reprise de la desserte. Donc aujourd'hui, plusieurs acteurs ou organisations humanitaires ont multiplié des réunions pour venir en aide à ces populations touchées par cette crise. En ce qui concerne les rescapés de l'attaque du bateau aujourd'hui, au nombre de 400 et quelques des organisations, associations et même des structures de l'État sont en train de s'organiser également pour leur venir en aide. Plusieurs associations ont ouvert des cagnottes à travers lesquelles on va aider ces rescapés à surmonter cette épreuve. Et même certains ont décidé quand même d'apporter un appui psychosocial à ces rescapés-là.
Alousseni Aladji, correspondant de VOA Afrique à Tombouctou. Au Burkina Faso, la région de Bobo-Dioulasso, qui a longtemps été préservée, ressent désormais les effets de la crise sécuritaire. De nombreuses activités économiques sont au ralenti et les échanges entre la ville et les départements voisins sont bloqués. Le reportage de notre correspondant Alidou Ouédraogo à Bobo-Dioulasso.
Le marché des fruits et légumes de Bobo-Dioulasso est le point de départ ou de convergence de produits agricoles de la région.
L'insécurité qui commence à toucher la région fait déjà des dégâts. Des centaines de camions sont immobilisés.
Tout le business est foutu. L'insécurité nous bloque. Souvent, nous faisons un mois à tourner ici sans rien faire.
Ousmane Sila transportait de la patate de Orodara à Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire.
Nous transportions de la patate, des tomates et autres à Orodara, ici Kasso. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Réputée ville commerciale, fruits et légumes, les habitants ne veulent pas voir Bobo Dioulasso perdre ce statut. Léa Sanou est une vendeuse de légumes.
Toutes ces difficultés d'approvisionnement nous amènent à s'arrêter des produits. Ce qu'on achetait à 5 000 francs, il faut aujourd'hui déposer 12 000 ou 15 000 francs pour l'avoir. Des fois, nous vendons à perte.
Il y a une autre réalité. La compagnie Sahel Voyage dessert toute la région du Sahel. Aujourd'hui, toutes ces lignes sont à l'arrêt, laissant la gare dans un piteux état avec des travailleurs au chômage. Soumaïla était bagagé.
Nous avons arrêté, ça fait 6 mois. C'est ici qu'on gagnait nos vies. C'est un drame.
À l'instar de ces activités, beaucoup d'autres domaines sont en train de fermer boutique à cause de la montée de l'insécurité dans le Grand Ouest. À Bobo Dioulasso, la correspondance de Alidou Edraogo.
En République démocratique du Congo, l'expansion des mines industrielles de cobalt et de cuivre a entraîné l'expulsion forcée de populations et autres graves atteintes aux droits humains, notamment des agressions sexuelles et des incendies, selon un rapport d'Amnesty International. Eddy Sango a joint à Kinshasa Jean Maubert Senga, chercheur pour Amnesty International.
Nous montrons dans ce rapport qui a pris 2 ans que des entreprises minières ont souvent, avec la complicité ou sous le regard indifférent des autorités congolaises, mené des expulsions forcées de plusieurs centaines, peut-être même des milliers de personnes de leurs champs, de leurs villages, souvent sans information préalable, sans consultation adéquate et sans compensation, ou lorsque les compensations ont été payées, c'était des compensations insuffisantes qui ne permettent pas à ces familles, à ces communautés de se réinstaller dans d'autres zones et de mener une vie au moins égale ou meilleure à celle qu'ils menaient avant les expulsions.
Vous parlez d'agressions sexuelles et d'autres violations des droits de l'homme qui accompagnent cette expansion de mines industrielles du cobalt et du cuivre. Qui commettent ces violations?
Alors, il y a toute une série de violations autour de ces expulsions forcées. D'abord, la plus répandue, c'est évidemment le fait de chasser les gens de leur terre, de leur maison, de leur champ, sans compensation ou sans compensation adéquate. Mais dans ce processus, il y a eu parfois des actes de violence commis par les forces de sécurité, de la police, l'armée congolaise, en complicité avec des agents de certaines entreprises. Et puis, lorsque des membres de ces communautés concernées ont organisé des sit-ins, des manifestations ou essayé de revendiquer auprès des autorités ou des entreprises, soit leurs manifestations ont été réprimées violemment par les forces de sécurité, résultant dans certains cas de blessures, mais également il y a des cas d'agression sexuelle auxquels vous faites allusion, où des femmes essayant de se rendre dans leur champ dont elles ont été expulsées ont été agressées par des militaires de l'armée congolaise, malheureusement en toute impunité.
En réponse à ce que vous dites, la Gécamine, mais aussi les industries chinoises dont vous parlez dans votre rapport, répondent qu'ils adhèrent à des normes éthiques pourtant.
Ça, c'est ce qu'elles disent sans surprise. Toutes les entreprises ont une stratégie de marketing qui veut les montrer comme des bons élèves en matière de droits humains. Mais malheureusement, sur le terrain, ce que nous avons constaté et ce qui est rapporté avec de très nombreux témoignages, d'autres preuves, c'est que ce n'en est rien, en tout cas pour la plupart de ces entreprises. Donc il y a un décalage énorme entre les discours, les beaux textes qu'ils mettent sur leur site internet pour la promotion de leurs investissements et les actes qu'ils posent sur le terrain et dont les victimes ont témoigné auprès de nous.
Jean-Maubert Senga, chercheur à Amnesty International.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête en vue d'une éventuelle mise en accusation du président Joe Biden. Les républicains accusent Joe Biden d'avoir tiré un avantage financier des affaires de son fils, Hunter Biden, à l'étranger. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point, le récit avec Jean-Roger Bion.
Après des mois d'enquête, les commissions républicaines de la Chambre des représentants vont maintenant travailler sur la mise en accusation du chef de l'État en vue de son éventuel procès devant le Sénat. Kevin McCarthy est le président de la Chambre.
Grâce à nos enquêtes, nous avons découvert que le président Biden a menti au peuple américain au sujet de sa propre connaissance des transactions commerciales de sa famille à l'étranger.
L'annonce de McCarthy intervient après des mois de pression de la part des conservateurs de la Chambre des représentants, le député républicain Scott Perry.
Je pense que n'importe quel citoyen qui serait confronté à ce que l'on reproche maintenant au président serait déjà au tribunal.
Les démocrates affirment que les républicains n'ont pas apporté la moindre preuve des malversations supposées de Joe Biden après des mois d'enquête au cours desquels des dizaines de milliers de documents ont été remis aux enquêteurs. Écoutons le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.
L'enquête pour la mise en accusation est absurde. Les Américains veulent que nous fassions quelque chose qui améliore leur vie, pas que nous nous lancions dans des chasses aux sorcières.
Les républicains détiennent une très faible majorité à la Chambre des représentants avec seulement 5 sièges de plus que les démocrates. Michael Turning du Centre de politique bipartisane.
Il est également possible que ces articles de mise en accusation ne parviennent jamais au Sénat. Avec une faible majorité, il n'est pas certain que les républicains puissent franchir la ligne d'arrivée. Ils ne peuvent certainement pas compter sur le soutien des démocrates. Ils doivent donc vraiment s'accrocher à chacun de leurs membres. Et s'ils perdent seulement 5 d'entre eux, ils ne pourront pas l'adopter.
Certains républicains ont exprimé leur inquiétude quant à la poursuite d'une enquête en destitution à l'approche de l'année électorale en 2024. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a déclaré par le passé que la procédure en destitution devrait être rare, a refusé mardi d'en dire davantage.
Nous avons les mains pleines ici en essayant de voter les allocations budgétaires.
L'annonce de l'enquête survient avant un bras de fer entre le Capitole et la Maison-Blanche. Les législateurs devront trouver un accord avec M. Biden pour que le gouvernement reste ouvert à la fin de l'année budgétaire le 30 septembre. En cas de fermeture du gouvernement, les commissions de la Chambre des représentants ne pourraient pas travailler sur l'enquête en question.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la gestion des catastrophes naturelles à la lumière du séisme qui a secoué le Maroc. Alors que le pays compte encore les victimes de ce deuxième séisme le plus meurtrier de son histoire, l'année 2023 a déjà connu des tremblements de terre meurtriers en Turquie et en Syrie. Quels sont les risques sismiques en Afrique? Quel est le niveau de préparation des pays dans la gestion des catastrophes naturelles? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Dividico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.